Attention, attention, RH moins 10 secondes. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,
la radio sauvage.
1, 0.
Et le reptile.
Et 6 heures exactement.
Avant minuit, minuit.
Qu'est-ce qui se passe?
Eh ben, il est 6 heures.
C'est l'heure. Il est l'heure.
6 heures.
Avant minuit.
Yes, man.
C'est 7h minuit, alors je suis pas bon.
6h avant minuit, 18h, 19h, sur Syllab.
La radio sauvage.
Et oui, la Madeleine en pixel à une prochaine fois. Et puis nous, on va se renommer 5h58 avant minuit le mercredi. Nous sommes le mercredi 11 juin 2025. Vous écoutez l'émission d'info locale de Syllab. Et je vous rappelle qu'il y a un jeu concours en ce moment. N'hésitez pas à jouer. Si vous avez écouté notre émission la semaine dernière, d'avant, je ne sais plus. Vous avez peut-être entendu l'interview de l'association humanitaire Pengal Alayam qui est basée à Janzé. Une asso qui vient en aide aux femmes et filles indiennes victimes de violences. Et donc Pengal Alayam organise 2 journées de découverte de la culture indienne pour financer un peu ses activités. Ça se passe les 27-28 juin prochains à Janzé et ça s'appelle le Fest India. Et pour l'occasion, vous pouvez gagner une place pour le spectacle de danse et de musique indienne du Fest India. C'est le samedi 28 juin à 20h30 à la salle du Janzièg. Pour jouer et pour gagner, vous avez besoin d'un mot de passe. Le mot de passe, c'est le temple des femmes. C'est la signification de Pengal Alayam en tamoul. Pour jouer, rendez-vous sur c-lab.fr. Mais tout de suite, c'est le flash des Noras.
La Freedom Flotilla a été illégalement interceptée par l'armée israélienne ce week-end. Dimanche, vers 2h du matin, l'armée israélienne a, en violation du droit international, arrêté l'équipage en route depuis le 31 mai pour apporter une aide humanitaire à Gaza. Transportés de force vers le port d'Ashdod en Israël, ils et elles ont ensuite été transférés dans le centre de détention de l'aéroport de Ben-Gourion. Ici, il leur a été demandé de signer un document juridique reconnaissant leur prétendue entrée illégale sur le territoire israélien. 4 de ses membres ont été contraints d'accepter pour des raisons personnelles. Les autres, dont fait partie l'eurodéputée Rima Hassan, ont refusé et attendent depuis d'être jugés par la justice israélienne. À son arrivée à l'aéroport de Roissy, l'activiste Greta Thunberg a assuré qu'ils et elles ne s'arrêteront pas là. Depuis lundi, les actions s'amplifient partout dans le monde. Alors qu'un convoi terrestre de plusieurs milliers de personnes est parti de Tunis, en France, des rassemblements quotidiens se forment et une occupation de la place de la République à Paris s'organise. À Los Angeles, ça s'organise aussi. Depuis plusieurs jours, les habitantes et habitants se révoltent contre la politique migratoire du président des États-Unis. Ils et elles refusent de son administration qu'elle expulse les personnes migrantes venues le plus souvent des pays latinos. Alors que l'État promet de résister et la ville de ne pas collaborer avec les autorités fédérales ni d'appliquer les futures lois sur l'immigration, Donald Trump marche dessus. Il annonce débarquer 2000 gardes nationaux et 700 marines supplémentaires à l'armée déjà présente depuis plusieurs jours. Reprenant la rhétorique d'extrême droite de l'invasion et du danger, les personnes étrangères et leur soutien ne cessent d'être criminalisés, ici comme ailleurs dans le monde. Certaines armées sont citoyennes. Camille Etienne et son armée de l'ombre luttent pour l'adoption de la taxe Zucman. Jeudi 12 juin, les sénateurs seront amenés à se prononcer sur l'impôt plancher de 2% sur les patrimoines des contribuables dont la fortune est supérieure à 100 millions d'euros. C'est la taxe Zucman. L'économiste, dont la taxe porte son nom, somme la nécessité de rétablir une justice fiscale considérablement abîmée ces dernières années. Selon lui, les plus riches ne contribuent pas à hauteur de ce qui est demandé aux autres catégories sociales. Parce que oui, aujourd'hui, l'impôt est régressif pour les ultra-riches, explique Camille Etienne. Si les Françaises et Français acquittent environ 50% de leurs revenus en prélèvement obligatoire, ce chiffre tombe à 27% pour les milliardaires. Alors que Bercy prépare les esprits à une nouvelle hausse des impôts en 2026, les citoyennes et citoyens s'étant mobilisés appellent de tous leurs vœux au vote de cette taxe. En prison, un détenu se suicide tous les 3 jours, et c'est un taux qui a augmenté de 25% depuis 2020 en France. Pour Pauline Petitot, chargée d'enquête au sein de l'Observatoire international des prisons, c'est un vrai parcours de combattant pour les proches qui décident de se lancer dans une bataille judiciaire. Les condamnations sont rares parce qu'il est difficile de montrer qu'il y a une défaillance dans la prévention du suicide. Pour l'administration pénitentiaire, des dispositifs sont mis en place quand le risque suicidaire est jugé important. Les rondes sont renforcées et un kit anti-suicide composé de draps et de vêtements déchirables est notamment distribué. Une réalité qui s'ajoute à une situation carcérale où les conditions de détention ne cessent de s'aggraver autant que s'accroît la surpopulation. Hier matin, une surveillante a été assassinée à coups de couteau. Le coupable présumé est un élève de 14 ans scolarisé au collège Françoise Dolto de Nogent en Haute-Marne. On revient avec Ryan sur les réactions politiques qui ont suivi ce drame.
Aujourd'hui, le procureur de la République de Chaumont a fait le point sur l'enquête. Il a déclaré que l'auteur des coups mortels ne souhaitait pas particulièrement cibler sa victime. Il n'a exprimé aucun regret et a déclaré vouloir faire le plus de dégâts possible. Au cœur des débats en ce moment, les renforcements de sécurité, notamment avec l'idée d'installer des portiques de sécurité à l'entrée des établissements scolaires. La ministre de l'Éducation, Elisabeth Borne, l'a annoncé. Une minute de silence se tiendra jeudi midi dans toutes les écoles pour rendre hommage à Mélanie, cette assistante d'éducation. Mais que s'est-il réellement passé hier matin? Ce drame s'est déroulé peu avant 8 heures. Ce jour-là, le collège organise une fouille préventive avant l'entrée des élèves. L'auteur du crime, un collégien de 14 ans, passe à l'acte. Peu après, en poignardant à de multiples reprises la surveillante. La victime est décédée à la suite de ses blessures peu de temps après. L'auteur présumé, lui, a été interpellé sans difficulté par les forces de l'ordre. Il est pour le moment en garde à vue et devrait être présenté à un juge d'instruction spécialisé dans les affaires concernant les mineurs. Reste aujourd'hui à déterminer les motivations de son acte sans pour autant que des troubles psychologiques aient été détectés pour le moment. Réputé perturbateur, l'adolescent était pourtant inconnu de la justice. Pour tenter de contenir ces drames devenus récurrents, le Premier ministre François Bayrou a annoncé l'interdiction de la vente de couteaux aux mineurs. Cette décision sera mise en œuvre dans les 15 jours, a précisé Matignon aujourd'hui. Dans la suite logique de ces restrictions, le président français Emmanuel Macron a remis sur la table l'interdiction des réseaux sociaux pour les moins de 15 ans. Le ministre délégué chargé de l'Europe, Benjamin Haddad, souhaite que cette restriction se fasse en commun avec les 27 pays de l'Union européenne, mais assure que si aucune décision n'est prise dans les prochains mois, la France montrera la voie.
Et à plusieurs milliers de kilomètres de là, un autre événement faisant écho à cette tragédie a eu lieu, celui d'une tuerie dans un lycée au sud-est de l'Autriche. Un ancien élève de l'établissement, âgé de 21 ans, a tué une dizaine de personnes, dont un ressortissant français. Dans le quartier du Blône, un projet immobilier sort de terre. Alors que les résultats Parcoursup et mon master viennent de tomber, la course contre la montre pour trouver un logement a débuté. Un moment stressant dans lequel des jeunes se voient payer à vie 2 ou 3 mois de loyer pour s'assurer un toit à la rentrée. Et Rennes ne fait pas exception, après Paris, elle est la deuxième ville où le marché est le plus tendu. Et chaque année, c'est plusieurs milliers de nouvelles arrivées étudiantes. Alors des projets immobiliers sont mis en place, comme celui-ci où 180 logements étudiants et jeunes actifs doivent voir le jour d'ici le second semestre 2026. Seulement, ces initiatives doivent être accompagnées par de vraies politiques publiques. Et d'ici là, si vous avez besoin d'aide ou de renseignements, le 4bis peut vous accueillir et vous accompagner dans vos démarches, alors n'hésitez pas. Les pécroutes sont de retour dans 6 heures avant minuit.
Oui, les pécroutes.
Cette fois, notre famille de Bretons et Bretonnes partie autour du monde depuis la Bouexière nous fait un coucou depuis la Bolivie, dernière étape de leur périple démarré en septembre dernier.
De l'autre côté du lac Titicaca, nous voilà en Bolivie. Ce sera notre dernier pays d'Amérique du Sud. On commence par La Paz, une grande ville étonnante, très ancrée dans les traditions, avec des boutiques de sorcières et des femmes en habits traditionnels partout. Ces mêmes femmes qui font de la lutte et le plus grand réseau de téléphériques du monde. Ici, la devise est « Tout est possible, rien n'est sûr ». On a trouvé que c'était plutôt vrai. On est un petit peu fatigué par les longs trajets, donc on ne s'arrête que dans la ville de Sucre avant de rejoindre le sud pour notre excursion de 4 jours dans le sud Lipez, là où se trouve le fameux Salar et plein d'autres merveilles. Des paysages plus beaux les uns que les autres se succèdent, sans conteste les plus beaux de notre tour du monde. On est soufflé. On repart émerveillé par l'étendue du Salar, le bleu des lagons et les centaines de lamas ou autres autruches vues sur le bord de la route. C'est aussi un pays qui traverse une crise financière importante, avec une inflation galopante qui met en difficulté tout le pays. Et par toutes ses facettes, la Bolivie nous marquera pour longtemps.
Et bientôt, nous recevrons toute la famille pour parler de leur périple autour du monde dans 6 heures avant minuit. Alors restez à l'écoute tous les soirs à 18h pour ne pas manquer ça. La chanteuse Emane sera en concert à Saint-Jacques-de-la-Lande demain soir. L'artiste à l'univers pop qui mêle gospel, soul, blues et groove sera l'une des invitées de la mini-tournée artistique court-circuit. Organisée par l'Antipode, l'événement part à la rencontre des habitants et habitantes des quartiers sud-ouest, tissant ainsi des liens entre les quartiers Clonay, La Courrouze, Bréquigny et Saint-Jacques-de-la-Lande. Si certaines ou certains d'entre vous l'ont peut-être découvert à l'édition 2024 de Transat en ville, pour les autres, il n'est pas trop tard.
Merci pour ton flash, Enora. On passe à l'interview avec Maëva.
Quelle heure est-il ?
6 heures.
Minuit, pourquoi ?
Syllabe.
Il est midi.
La radio sauvage.
Minuit.
01.
Il y a minuit, plus personne.
6 heures avant minuit.
À la chemise grise, en face de moi, Éric Petit, le cofondateur de l'association Cabane 55 et écologue. Alors déjà, vous nous avez dit être écologue, ça m'a intrigué tout à l'heure en préparant l'interview. C'est quoi être écologue au quotidien ?
Bonjour. Être écologue au quotidien, c'est déjà s'émerveiller du vivant. Et puis, dans ma pratique professionnelle, je suis chercheur. Je travaille sur les invasions biologiques, je travaille en biologie de la conservation, sur les milieux aquatiques, sur les milieux terrestres.
S'émerveiller du vivant, c'est ce qu'on va pouvoir faire lors du festival Les Nuits des Forêts, que vous organisez ici en Bretagne avec Cabane 55, mais qui est un festival national qui est partout en France. C'est quoi l'histoire de cette association Cabane 55 et pourquoi vous avez décidé avec Les Nuits de Forêt d'organiser ça ici en Bretagne ?
Alors, pour commencer, donc Cabane 55, c'est une rencontre entre une artiste, Sandrine Roblin, et moi-même, donc un chercheur en écologie. Et l'idée commune de vouloir trouver des moyens de renouer avec le vivant. Il y a beaucoup d'initiatives à ce niveau-là, sur ces thématiques-là. La particularité dans notre association, c'est une association art-sciences. Donc, dans tous les projets, il y a au moins un artiste et un scientifique qui sont associés pour arriver à produire des effets sur ce lien au vivant.
Le festival Nuit des Forêts est né en 2020, en pleine prise de conscience écologique, avec l'idée de reconnecter les gens à la forêt à travers l'art, la science et la rencontre, comme Cabane 55, l'art et la science. Comment est née cette idée folle d'emmener l'art, la science et les gens dans les bois en Bretagne ?
Alors, pour compléter la réponse que je donnais tout à l'heure, notre association fonctionne sur un mode projet et on s'est vite rendu compte que les Nuits des Forêts, qui est aussi une association, avaient des buts similaires. Et du coup, c'est devenu un allié particulièrement important pour l'association parce que pour notre part, c'est la quatrième participation. Et cette année, je crois qu'il y a 311 événements à travers la France organisés par les Nuits des Forêts. Et il y en a une quinzaine en Bretagne, il y en a trois dans la forêt de Pimpon, en Brocéliande, dont la nôtre, mais il y a deux autres initiatives qui sont toutes tournées autour de la forêt, de sa préservation, et puis de nouveaux modèles de société pour ces milieux.
En parlant de la forêt de Pimpon et de Brocéliande, est-ce que vous avez des événements forts prévus ici dans ces forêts qui vont se dérouler ce week-end ou dans les prochains jours ?
Alors pour nous, ça va se dérouler samedi en fin de journée à la Cabane 55, puisque la Cabane 55, c'est à la fois le nom de l'association et le nom du lieu où nous organisons ces événements.
Si je ne me trompe pas, la Cabane 55, c'est vous avez trouvé le nom sur une porte, non, dans la cabane à Pimpon ?
C'est ça, en fait, la cabane portait un numéro qui est un peu étrange, puisque la cabane est au milieu un peu de nulle part. Et c'était le numéro 55, voilà. C'est un nom facile à trouver.
Qu'est-ce que vous vouliez déclencher chez les gens en créant ce festival avec les Nuits des Forêts, bien sûr ? Une émotion ou une prise de conscience peut-être dans cette émission ?
C'est bien trouvé, alors c'est peut-être une prise de conscience par l'émotion. C'est-à-dire ces projets qui mêlent science et on va dire pratique artistique, elles sont vraiment là pour passer par le sensible pour essayer de sortir un petit peu simplement du rationnel, des chiffres et de tout ce qu'on nous ressasse tous les jours pour essayer de comprendre aussi un petit peu ce que c'est que le vivant, la biodiversité à travers des expériences sensibles.
Alors qu'un quart des forêts françaises sont aujourd'hui menacées par les sécheresses, les coupes intensives ou le morcellement, organiser un festival en pleine forêt peut sembler un peu paradoxal. Pourquoi, selon vous, c'est justement plus que jamais nécessaire d'organiser cet événement ?
Alors, c'est vraiment dans notre pratique, c'est de confronter le public à ce que c'est que la forêt, hein, si on parle des Nuits des Forêts. L'expérience sensible, elle est à la fois de ressentir. On a organisé, lors d'une autre d'une autre année, des Nuits des Forums, organisait une promenade nocturne dont les gens parlent encore aujourd'hui, pour entendre, sentir, écouter ce qui se passe en forêt la nuit.
Et d'ailleurs, pourquoi la nuit ? Pourquoi organiser ce festival la nuit ?
Je pense que c'est parce qu'on est, on est plus près de nos sensations la nuit. Je vous avoue que je n'ai pas été à l'origine effectivement, de ce festival Nuit des Forêts, mais pour moi, c'est l'explication la plus sensée que je puisse trouver. Je pense que c'était une bonne idée d'imaginer qu'on va plus se rapprocher du vivant quand on s'éloigne un peu plus du monde qu'on connaît. Et le monde qu'on connaît, on est une espèce qui est quand même plutôt diurne. Donc il faut aller se diriger vers la nuit.
Et justement, dans notre territoire, les forêts sont de plus en plus fragiles, comme on en a parlé juste avant. On pense à la chute du hêtre de Pontus à Brocéliande, emporté par une tempête en 2023. Un arbre vieux de 300 ans, symbole local et lieu de balade pour beaucoup d'habitants. Est-ce que ce genre d'événement a influencé la programmation ou la sensibilité du festival cette année ?
Alors, on peut pas. L'association et les Nuits des Forêts sont nées avant la tempête, mais la répétition des problèmes qu'on peut rencontrer en forêt, là, on parle d'un arbre qui est tombé suite à une tempête. Il y a les incendies, il y a les maladies, il y a les sécheresses. Il y a beaucoup de problèmes qui se posent au milieu naturel aujourd'hui. Et il nous semble qu'il manque un peu de sensibilité à ces problématiques. Et c'est évidemment la raison pour laquelle des associations comme les Nuits des Forêts ou la Cabane 55 naissent.
Donc, Cabane 55, ça mêle écologie, culture, forêt et création artistique. Pourquoi, selon vous, l'art a-t-il un rôle important à jouer dans cette prise de conscience écologique ?
Alors, à différents niveaux. Le premier niveau, c'est, puisqu'en tout cas, dans notre cas, on est vraiment sur une association art-sciences, c'est une autre façon de raconter les connaissances qu'on acquiert dans les laboratoires. La deuxième dimension, c'est parce que l'art est une façon de raconter des histoires qui, aujourd'hui, touchent des publics qui peuvent être très larges et qui nous permettent d'atteindre des publics qu'on ne rencontre pas très souvent. Et puis, comme je disais tout à l'heure, c'est aussi pour, en mêlant art et science, pour essayer de montrer que ce qui est rationnel et ce qui est sensible, en fait, ça va ensemble.
Donc, vous nous avez dit, vous, votre projet, c'est samedi soir avec les Nuits des Forêts. Est-ce qu'il y a des artistes invités en particulier à ce moment-là ?
Alors, cette session va associer trois personnes. Un chercheur, Christophe Piscard, qui est du laboratoire EcoBio, qui est un laboratoire de Rennes, et qui est spécialisé dans toutes les petites bêtes aquatiques. Et le premier atelier va simplement être d'essayer de décrire. Il y a un étang à côté de la cabane. On va décrire un petit peu tout ce qu'il y a comme petites bêtes dans cette pièce d'eau. Et ça va servir à Sandrine Roblin pour inviter les personnes présentes à s'imaginer leur vie d'organisme aquatique. Et donc là, la création artistique sera autour de récits qu'on mêlera ensuite collectivement, mais qui au départ seront une invention d'une histoire à partir des observations faites dans le premier atelier.
Et comment, à notre échelle, pour les auditeurs et aussi pour nous ici, comment on peut vous aider, Cabane 55, et comment on peut aider à sauver nos forêts ?
Très vaste question. Alors, il y a globalement l'engagement. C'est-à-dire l'action, l'engagement. Il y a beaucoup d'associations. Hein. Les Nuits des Forêts, c'en est une. Cabane 55, c'en est une autre. Pour nous joindre, le plus simple, pour l'instant, c'est le mail. Il y a une page Facebook, un Instagram. Mais pour nous joindre directement, c'est associationcabane55, tout attaché, @gmail.com. Et concrètement, il faut aujourd'hui certainement penser un peu comme écrivent les Nuits des Forêts, un autre modèle de société autour des forêts. Dans l'imaginaire collectif récent, les forêts, c'est avant tout une source d'énergie, c'est du bois pour la construction, pour le bois d'œuvre. Avec le GIEC et l'IPBES, qui est un peu le GIEC de la biodiversité. On a découvert aussi l'importance de la forêt à la fois pour le climat, pour la biodiversité. Et puis les gens, je pense, ont toujours plaisir à se promener en forêt. Donc il y a plein de raisons pour agir et beaucoup d'associations qui œuvrent dans ce sens.
Pour les petites sessions de ce week-end, est-ce que il faut réserver sa place? Est-ce que c'est payant? Est-ce que vous pouvez nous dire un peu comment ça s'organise?
Alors jusque-là, toutes nos actions sont toujours gratuites. Ça passe toujours par une billetterie, simplement pour parce qu'on a une jauge qui est toute petite. Et malheureusement, ce soir, la jauge est déjà remplie. Donc voilà, on a déjà fait le plein pour samedi soir. Et voilà, on est très heureux d'arriver avec cette nouvelle-là. Un peu malheureux pour les auditeurs qui ne pourront pas s'inscrire suite à l'émission.
Peut-être la prochaine édition l'année prochaine ou peut-être d'autres projets? Est-ce que vous en avez d'autres au cours de l'année?
Alors on est une toute petite association, donc on fait les projets les uns après les autres, donc le projet suivant est en montage, et très certainement, parce que les Nuits des Forêts c'est un allié de long cours pour nous, très certainement une nouvelle Nuit des Forêts en 2026.
D'accord. Est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter?
Est-ce que peut-être il y a d'autres événements en Brocéliande ou en Ille-et-Vilaine que vous pouvez évoquer dans le cadre des Nuits des Forêts?
Oui, il y a notamment dans la forêt de Brocéliande, il y a deux autres événements. Alors j'ai pris des notes pour être certain de ne pas me tromper, mais autour de Pointe-Clos et de Concoret, il y a toujours dans le cadre des Nuits des Forêts, hein, il y a une exposition photographique et puis des animations autour de contes, autour de la forêt de Brocéliande. Et à Néant-sur-Yvelles, là c'est plutôt des sorties naturalistes, sorties équestres, et puis du théâtre d'improvisation autour de la thématique des Nuits des Forêts. Donc ça vous fait quand même trois événements pour sortir ce week-end sur Brocéliande dans le cadre de la Nuit des Forêts.
Et moi, je me demandais, j'avais une petite question complémentaire, si tu permets, Maëva.
Il n'y a pas de souci.
On parlait tout à l'heure de comment les gens qui nous écoutent peuvent, à leur échelle, protéger la forêt. Je me demandais si, localement, est-ce qu'il y a des problèmes particuliers? On parle de la forêt de Pimpon, la forêt de Brocéliande, où il y a beaucoup de tourisme. Est-ce que ça a un impact particulier sur la forêt, qu'il soit bon ou mauvais?
Là, j'ai pas de... C'est un peu difficile à dire. Sur mon ressenti, c'est que la forêt de Pimpon subit effectivement un peu de surtourisme dans des lieux très localisés. Donc moi, j'invite les gens surtout à visiter la forêt dans son ensemble et pas à se concentrer sur les quelques sites un peu mythiques.
Pas aller qu'à l'arbre de Merlin.
Voilà. Parce qu'il y a plein d'endroits très chouettes dans la forêt et qui est aujourd'hui relativement... bien protégé de ce surtourisme, simplement parce que la forêt est en grande partie privée. Et donc c'est des conventions, et notamment les espaces privés sont inaccessibles tout l'hiver. Je crois que ça commence même le 1er octobre jusqu'au 31 mars, quelque chose comme ça. Du coup ça limite fortement le surtourisme sur ces zones-là.
Et des formes de pollution qu'on pourrait voir dans d'autres forêts, par exemple.
Oui.
Ok, bon, le mot de la fin, ce sera du coup aller partout dans la forêt de Pimpon, alors.
Voilà.
Et puis participer aux Nuits des Forêts.
Oui, ce sont les Nuits des Forêts.
Les Nuits,
ouais. Il y en a 311 en France.
Merci beaucoup.
6 heures avant minuit.
Tu restes avec nous, Maëva, puisque c'est l'heure de ta chronique Lumière Basse.
Et oui, me revoilà. J'espère que ma chronique vous a manqué. Toujours pas de voix off hollywoodienne, mais la mienne fait le boulot, même si elle est un peu malade aujourd'hui. Dans Lumière Basse, on continue à parler de cinéma, mais sans red carpet ni bande-annonce qui hurle cet été, il va tout faire péter. Ici, on parle des réalisatrices qui éclairent ce que la lumière elle-même a fui. On dit souvent qu'un film, c'est une fenêtre ouverte sur le monde, mais parfois, faut pas se concentrer de la fenêtre. Faut sortir, marcher dans les décombres, écouter ce que la ville a à dire, même quand elle ne ressemble plus qu'à un souvenir. Là où la mémoire s'échappe, dans Lumière Basse, on continue à regarder autrement, celle qui tourne en contre-jour, pas pour faire les mystérieux, mais parce que c'est là, dans l'ombre, que le monde commence à parler autrement. Et aujourd'hui, on remonte le temps direction Beyrouth, dans les années 70, pas celui des cartes postales, celui des archives, celui qu'on porte en soi dans le pays quand le pays s'effondre. C'est là qu'on retrouve notre cinéaste, journaliste résistante par l'image, une femme qui a décidé qu'un film pouvait aussi servir à pleurer un pays et à le recoller. Jocelyne Saab, c'est une caméra qui tremble mais qui n'abandonne jamais.
Je pense que j'ai tenté à chaque fois de sortir des sentiers battus de l'écriture cinématographique, du moins quand j'ai démarré, dans ce sens qu'il fallait absolument donner une image nouvelle, une autre image du pays, ou quand j'étais reporter, de la guerre, qu'il ne s'agissait pas simplement de jeter l'image, comme on fait aujourd'hui, au spectateur, jeter cette image de violence, ce qui fait qu'il ne comprend plus rien, qu'il ne sait plus où se situer. Et par contre, si on donne une image, même si elle est très personnelle, mais si elle est réfléchie, si elle parle à l'affectif, si elle parle à la douleur des autres, du spectateur, elle lui permet de se situer.
Une femme qui ne filme pas pour faire joli ni pour faire choc, elle filme pour tenir debout. Et ça vaut bien tous les films où les héros courent au ralenti sur fond de musique épique. Née en 1948, Jocelyne Saab aurait pu être Miss Liban parce qu'elle était brillante, charismatique, belle et libre. Mais non, elle a préféré courir sur les terrains de guerre. Elle commence comme journaliste couvrant la guerre civile libanaise. Et puis un jour, elle retourne sa caméra vers elle-même, vers sa ville, pour raconter Beyrouth à la première personne avec ses mots, sa voix.
La guerre impose à une ville détruite des rythmes nouveaux et des situations pour le moins inattendues. Les combattants lisent Tintin, alors que le malheur, comme dans les textes anciens, tombe du ciel.
C'est ma maison. C'est ce qu'il en reste. C'est vrai que cette maison, c'est la tradition, que ça me fait quelque chose au cœur, que c'est 150 ans d'histoire. C'est mon identité aussi.
Elle est de celles qui racontent la guerre non pas pour la montrer, mais pour mieux révéler ce qu'elle efface. Jocelyne Saab, c'est aussi celle qui fait des films comme On restaure des ruines. Très vite, elle comprend que le réel brut ne suffit plus. Alors elle glisse vers la fiction, ou plutôt un entre-deux, à mi-chemin entre documentaire et rêve éveillé. Dont Il était une fois Beyrouth, histoire d'une star, deux jeunes femmes à la fois fictives et si réelles arpentent Beyrouth comme une vieille bobine de pellicule abîmée. Elles cherchent les traces d'un cinéma disparu, d'une ville avalée par les bombes. Toi, l'auditeur, tu es là avec elles, tu vois Beyrouth à travers leurs yeux, leurs souvenirs, leur silence. Le film devient une balade, une enquête, une séance de spiritisme en Super 8. Et c'est ça, Jocelyne Saab, elle filme la mémoire qui sent la poussière, la peur. Les cendres, celles qui restent coincées dans les rideaux d'un cinéma désaffecté. Mais Jocelyne Saab, c'est aussi les femmes palestiniennes qu'elle filme debout dans les camps de réfugiés, des femmes qui ont perdu leur maison, leur pays, parfois leur enfant, mais qui n'ont pas perdu leur regard. Elle tend son micro, elle traduit leurs mots pour que leur voix franchisse les frontières. Écoutez.
D'ailleurs, je ne sais plus ni où je vis, ni comment je vis. Entre le ciel et les avions, personne ne sait où est l'autre. Personne. Et s'il y avait une solution politique? Une solution politique, il n'y en aura pas. Il n'y aura que la Palestine. Tant qu'il restera un seul de nos fils vivants, il n'y aura pas de solution politique. Il n'y aura que la Palestine, tout entière.
Les femmes palestiniennes sont opprimées sur le plan national. Elles ont été déracinées comme tous les Palestiniens. De plus, elles sont opprimées socialement de par leurs conditions de femmes. Elles ont les mêmes problèmes que les classes pauvres dans la plupart des pays arabes.
Elle les filme sans voix off qui surinterprète, elle leur laisse l'image et c'est fou comme un cadre bien placé peut faire plus qu'un discours à l'ONU. Son combat à elle, c'est de montrer que dans les guerres les plus sales, les femmes ne sont pas des corps tragiques, elles sont des sujets, des combattantes, des narratrices. Ce film-là, c'est de la politique au ras de sol. C'est pas l'Elysée, c'est un hôpital de fortune, c'est pas le bulletin de vote, c'est les noms rayés sur les murs. Dans les années 2000, on parle souvent de nouveau cinéma libanais, celui de Nadine Labaki ou Sia Doueri. Mais Jocelyne Saab, elle était là avant tout le monde, avant que ce soit tendance de faire des plans stylés sur Beyrouth en ruine. Elle l'a filmé comme elle brûlait encore. Elle disait « Mon cinéma est fait pour survivre à la guerre » et franchement, je pense que son cinéma a gagné. Alors là, Jocelyne Saab ne sortira jamais dans 300 salles, mais ses films sont là. Elle nous a laissé une œuvre, pas une œuvre glorieuse, une œuvre vulnérable, humaine, résistante. Et aujourd'hui, si tu cherches un cinéma qui te secoue autrement que par un jumpscare ou un plot twist final, regarde Jocelyne Saab parce qu'il y a des films qui éteignent la lumière et d'autres qui l'allument là où personne ne regarde. Mais pour l'instant, coupe pas, reste encore un peu avec la lumière basse.
Merci beaucoup Maëva, à bientôt pour une nouvelle chronique. Et puis je crois qu'on a un petit problème de répondeur là, il est vide.
téléphone.
Téléphone.
Allô? Allô?
Syllab, la radio sauvage.
Pas de message sur la boîte vocale de 6h avant minuit. Je vous redonne le numéro, c'est le 02 30 96 25 35. Appelez-nous, dites-nous tout ce que vous avez sur le cœur, faites-nous des retours sur nos émissions. On vous écoute, on vous attend. Merci à Mazir pour la technique. À demain dans 6h avant minuit.
Radio sauvage.
Et le reptile.
Et 6 heures exactement.
Avant minuit, minuit.
Qu'est-ce qui se passe?
Eh ben il est 6 heures.
Le magicien n'est jamais en retard, ni en avance d'ailleurs. Il arrive précisément à l'heure prévue.
6 heures.
Avant minuit.
Ils sont partis dans les couloirs du temps.
6 heures avant minuit, 18h, 19h, sur Syllab, la radio sauvage.